sur le recrutement russe de jeunes hommes et jeunes femmes en Afrique subsaharienne pour soutenir l'effort de guerre de la Russie en Ukraine. Alors on le sait, hein, pour aider à combattre dans cette guerre, russe et ukrainien ont recruté des étrangers. La Russie a intégré quelques 5000 soldats nord-coréens dans ses troupes pour les envoyer au front. Beaucoup sont morts, d'autres, on l'a vu, ont été faits prisonniers par les Ukrainiens. La Russie recrute aussi en Afrique subsaharienne. Thierry Vircoulon, vous avez découvert que les profils qu'elle recherche sont des combattants et aussi des ouvrières.
Oui, recherche, en fait, Moscou recherche ces deux profils, des ouvrières, des jeunes femmes pour travailler dans le complexe militaro-industriel et en particulier dans celui d'Alabouga au Tatarstan.
C'est au centre de la Russie, hein, et ce centre produit des armes et notamment des drones.
Oui, c'est au Tatarstan. Et puis des mercenaires amateurs. Donc là plutôt des hommes évidemment, pour être sur le front intégrés dans l'armée russe. Et c'est vraiment ces deux types de profils qu'ils ciblent en Afrique, mais pas seulement en Afrique d'ailleurs, puisque cette politique de recrutement est globale. Vous parliez des Nord-Coréens au début, mais il y a aussi des gens qui viennent d'Asie, des gens qui viennent d'Amérique du Sud, il y a des Cubains également, etc. Donc il y a des gens du Moyen-Orient aussi. Et donc on voit bien que c'est une stratégie qui est globale.
Et sur le continent africain, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur de ces recrutements ?
On estime qu'il y a entre 15 et 20 000 mercenaires amateurs dans l'armée russe et qu'il y en aurait sans doute 3 ou 4 000 au moins qui sont africains. C'est des estimations évidemment qui ont leurs limites méthodologiques, parce qu'évidemment il n'y a pas des comptes précis fournis par les autorités russes, mais ce sont des estimations qui circulent.
Comment les Russes s'y prennent pour recruter en Afrique, et vous l'avez dit hein, aussi en Russie ? Thierry Vircoulon.
Oui, alors il y a deux, comme je le disais, il y a deux filières de recrutement. La filière de recrutement des ouvrières pour le complexe d'Alabouga où on fabrique des drones, c'est au Tatarstan. C'est une filière qui est tout à fait officielle, qui passe par les canaux des ambassades africaines et pas seulement africaines d'ailleurs à Moscou, qui passe par les canaux aussi de certains ministères de l'enseignement en Afrique. On a retrouvé la publicité pour ce programme de formation sur plusieurs sites de ministères africains et qui passe par de la publicité dans les médias africains et des tournées même de recruteurs d'Alabouga qui sont rendus dans un certain nombre de pays africains. Donc ça s'est fait de manière tout à fait officielle et ouverte, et ce programme est présenté comme un programme de formation professionnelle, ce qui n'est pas véritablement.
Oui, on leur fait plein de promesses en fait. Hein. Il y a des recruteurs, on leur promet d'être formés.
Oui, tout à fait. C'est une offre de formation professionnelle, donc ça s'inscrit dans tous ces programmes de formation qu'offre la Russie depuis et avant la Russie, l'URSS, aux pays du Sud. Et on leur offre d'être formés à des métiers civils, hein, très classiques, en plus d'être rémunérés, et puis après d'obtenir la promesse d'un emploi en Russie. Et en fait, elles se retrouvent la plupart du temps dans une usine d'assemblage de drones.
Et ça, elles ne le savent pas, forcément.
Non, au départ, elles ne le savent pas, parce que, comme je le dis, c'est un recrutement qui est trompeur, qui propose une formation à des métiers civils.
Des influenceurs sud-africains qui relayent dans des vidéos la campagne russe de recrutement.
Il y a des entreprises internationales en Russie et elles payent vraiment bien.
Thierry Vircoulon, et comment ils s'y prennent alors pour recruter les combattants, sachant que la filière des mercenaires étrangers est illégale ?
Oui, la filière pour recruter des mercenaires amateurs, elle est secrète. On voit que ce sont des réseaux qui sont composés à la fois par des Africains et des Russes. Sur place, on voit qu'il y a pas mal de, soit des influenceurs sur les réseaux sociaux, des influenceurs africains qui font la publicité pour la Russie et qui qui après font ce type d'offres, soit aussi des agences d'immigration qui sont spécialisées dans la fourniture de jobs à l'étranger, dans les pays africains. Et puis, quelquefois, notamment au Kenya, par exemple, on a vu apparaître un citoyen russe qui semblait lié à une filière de recrutement secrète. Donc, c'est ces milieux-là qui sont la plupart du temps qui favorisent l'immigration plus ou moins légale des Africains, qui sont activés par des Russes et probablement par les services russes.
Et oui, c'est ça. En fait, ils arrivent aussi à recruter, à appâter une population qui est plutôt pauvre, un vivier finalement dans lequel ils peuvent puiser parce qu'il y a une jeunesse urbaine qui en demande des migrations économiques et ils savent très bien qu'en Europe c'est plus compliqué. Donc peut-être que la Russie fait rêver.
Oui, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte au fil de notre étude que un certain nombre d'entre eux, par exemple, avaient déjà tenté d'émigrer en Europe et avaient échoué. Et donc, ils optaient pour la Russie comme une alternative. Et donc, on voit bien que là, la Russie a une stratégie d'exploitation de la migration. Comme je le dis, elle n'est pas simplement africaine, mais elle est aussi asiatique. Et c'est une vraie stratégie qui consiste en effet à exploiter les réseaux de migrants mondiaux.
Et ça concerne quel pays ? Vous citez dans votre étude, par exemple, qu'il y a des désertions. Ça concerne, par exemple, comme profil des déserteurs au sein de l'armée camerounaise, par exemple.
Oui, tout à fait. Alors, on a trouvé en effet des déserteurs camerounais qui se sont engagés dans l'armée russe. Mais en discutant avec nos contacts là-bas, ils nous ont dit qu'il y avait de très nombreuses nationalités africaines.
Oui, c'est ça. Je vous cite. Hein, Botswana, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya. C'est quand même vaste comme terrain de recrutement.
La liste n'est pas exhaustive. On peut ajouter Sierra Leone, Somalie, etc. Sénégal. Donc, il y a vraiment une très grande représentation des nationalités africaines. Globalement, on a quand même l'impression que l'ensemble du continent est représenté.
Ouais. Et une fois sur place, et même avant de partir, en réalité, c'est très coûteux de s'engager comme combattant pour les Russes. On leur dit, ben voilà, tu vas être rémunéré, mais en réalité, pour y aller, il faut déjà débourser. Alors qu'ils
oui,
n'ont pas forcément les moyens.
Oui, tout à fait. Et le sentiment qu'ils ont très souvent, c'est celui de s'être fait arnaquer de ce point de vue-là. Parce que beaucoup pensent que les frais qu'ils ont dû avancer, les frais de voyage et puis aussi pour avoir un passeport, etc., beaucoup pensent que cet argent est en fait payé par l'État russe aux intermédiaires dont on parlait tout à l'heure et que ces intermédiaires empochent une partie de cet argent. Et donc, ils ont l'impression d'être arnaqués à la fois au départ, parce qu'ils sont forcés d'avancer un certain nombre de frais, ils pensent qu'ils vont être remboursés, mais c'est pas le cas. Et puis ils sont aussi arnaqués à l'arrivée, parce que là le traitement qui leur était promis, en règle générale on leur promet 2 à 3 000 euros, eh bien il est bien moindre et les conditions ne sont pas du tout celles qui étaient prévues. Il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui s'engagent sur des offres trompeuses, où on leur promet, là aussi, soit de travailler dans le civil, soit de travailler dans des fonctions logistiques pour l'armée russe, donc ils ne pensent pas qu'ils vont être combattants. Et puis, il y a l'autre cas de figure, ceux qui savent qu'ils vont être combattants et qui s'engagent pour aller combattre. Mais la majeure partie d'entre eux ont déclaré qu'ils s'étaient engagés en pensant qu'ils n'allaient pas combattre et qu'ils partaient sur d'autres fonctions.
Ouais. Et finalement, comment ça se passe sur place? Leurs passeports leur sont retirés, leurs téléphones inspectés et très vite, ils suivent une formation de tir avant d'être envoyés au front.
Oui, ils ont une formation qui est sommaire de quelques semaines. C'est pour ça qu'on les considère comme des mercenaires amateurs. Ce n'est pas des combattants professionnels, sauf ceux qui sont des déserteurs d'armée africaine évidemment, mais la plupart sont des mercenaires amateurs. Ils ont une formation qui est très succincte. Ils sont mis dans des unités qui sont clairement des unités qu'on envoie en première ligne avec donc beaucoup d'étrangers, comme je le disais, c'est très multinational, mais aussi des Russes qui ne sont pas des soldats professionnels, des gens qui ont été recrutés dans les prisons en Russie, etc. Et donc c'est des unités qu'on envoie au casse-pipe, pour parler trivialement, que l'armée russe envoie en premier dans les zones les plus dangereuses et pour parfois simplement détecter les positions ukrainiennes. Et donc il y a un taux de létalité qui paraît assez élevé.
Pour ceux qui ne meurent pas au front, les seuls échappatoires sont la fuite vers les lignes ukrainiennes ou la blessure volontaire pour être évacué.
Oui, tout à fait. Malheureusement, pour un certain nombre d'entre eux, ce voyage est un aller sans retour. Mais pour d'autres, il y en a qui ont été capturés en effet par l'armée ukrainienne. Et il y a un certain nombre, sur les réseaux sociaux, de vidéos où l'armée ukrainienne présente des prisonniers de guerre de nationalité étrangère. Il y a d'ailleurs des discussions actuellement avec le gouvernement du Ghana pour qu'il récupère certains de ces prisonniers. Et puis il y a les cas où les mercenaires amateurs se rendent compte qu'ils sont fait piéger, qu'ils sont dans une situation très dangereuse. Donc certains sont soit blessés au combat évidemment, mais d'autres se blessent eux-mêmes aussi pour pouvoir être évacués et vers l'arrière et ne plus être sur le front. Ils comprennent que le risque de mort est quand même très élevé. Et c'est par ces blessés en fait que le scandale est arrivé. Puisque ces blessés ont profité de leur situation à l'hôpital, si je puis dire, pour contacter leur famille en Afrique. Et c'est par le biais de ces familles qu'après des journalistes africains ont été contactés et que les choses ont commencé à être sues dans ces pays. Et donc c'est vraiment par les blessés, en quelque sorte, que le scandale arrive.
My boy, I spoke with him yesterday.
J'ai parlé avec mon fils hier.
All the time my boy is crying.
Et il pleure tout le temps quand on lui parle. Il pleure tout le temps à cause de la situation. Sa mère pleure et ses deux sœurs aussi. La situation est terrible. Il travaille tous les jours. Ils creusent des tranchées presque quotidiennement. Et même l'entraînement est extrêmement difficile. Ils portent des armes très lourdes. Le problème, c'est à quoi ils sont confrontés. Il n'y a pas d'eau, parfois pas de nourriture. Il arrive qu'ils n'aient rien à manger pendant plusieurs jours, parfois 5 jours d'affilée. C'est même très difficile de se laver.
Des gens meurent à la guerre. Même des innocents, même des soldats. Et lui, ce n'est pas un soldat, c'est juste un homme qui voulait une vie meilleure pour lui et pour ses enfants. Avant leur départ, ils ont rencontré la fille de l'ancien président Zuma. Elle leur a offert des billets d'avion. Ils ne les avaient pas achetés eux-mêmes.
She gave them a flight ticket.
Je lui ai demandé de quel genre de travail parles-tu sans cesse. Il m'a montré des documents sur son téléphone. Je ne savais même pas qu'il avait passé des examens médicaux. Je l'ai prévenu. D'après ce que j'ai entendu, la Russie n'est pas un pays sûr. Ne peux-tu pas aller travailler ailleurs? Mais il a insisté. Maman, ce n'est qu'un travail de sécurité. Ils offrent entre 1 et 2 millions de shillings. Si je travaille un an, on sera à l'abri et je n'aurai plus jamais à quitter la maison. Au bout d'un moment, quand il a commencé à partir en mission, je n'arrêtais pas de prier pour lui car j'étais très inquiète. Puis, il a disparu subitement et je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles depuis.
Voilà les témoignages de parents en Afrique du Sud, désespérés de voir leur enfant ou leur frère en Ukraine combattre sur le front. D'ailleurs, Afrique du Sud, où les recrutements russes ont provoqué un scandale politique récemment, Thierry Vircoulon.
Oui, alors là, c'est une situation tout à fait particulière par rapport aux autres pays, parce que là, un recrutement de 17 Sud-Africains a été fait par un parti politique. Alors qu'avant, comme on le disait au début, quand on parlait des réseaux de recrutement, c'est des réseaux de passeurs, des agences de voyage, d'émigration, etc. Mais là, c'est le parti politique de Jacob Zuma,
ancien
qui a envoyé...
président.
l'ancien président sud-africain, qui a envoyé à l'été 2025 17 de ses militants faire soi-disant une formation de garde du corps à Moscou. Et ils se sont retrouvés enrôlés dans l'armée russe. Et là aussi, ils ont appelé leur famille à l'aide. Et donc là, évidemment, ça prend une tournure complètement politique.
Ouais.
Là, une des filles de Jacob Zuma est sous enquête de la police sud-africaine, parce que c'est elle qui aurait été à la manœuvre de ce recrutement. Et il y a d'autres personnes qui ont été arrêtées depuis en Afrique du Sud comme membres de réseaux de recrutement. Donc là, on a affaire à un scandale politique.
Mais c'est assimilé
sur ce recrutement.
Oui, c'est assimilé à un trafic d'êtres humains en fait. Hein.
Oui, tout à fait. Sur le plan de la législation, sur le plan du code pénal, ça sera poursuivi comme trafic d'êtres humains, puisqu'en effet, ces recrutements sont abusifs et trompeurs, comme on l'expliquait tout à l'heure. Ce sont des fausses offres d'emploi. Très souvent. Et en ce qui concerne donc les 17 Sud-Africains, là, initialement, on leur avait dit qu'ils partaient pour suivre une formation de garde du corps en Russie, et ils se sont retrouvés dans l'armée russe. Donc on voit bien qu'il y a en effet tromperie.
Concernant les ouvrières, une fois qu'elles sont au travail sur ce site militaro-industriel au Tatarstan, qu'est-ce qui finalement leur arrive comparé à ce qu'on leur promet ?
Bah, d'une part, elles sont moins payées que ce qu'on leur promet. Deuxièmement, c'est pas une formation professionnelle. Enfin, on leur apprend à assembler des drones, mais c'est pas la vraie formation qui leur était promise dans différents métiers. Là, il y en a qu'un seul. Et puis après, alors on n'a pas encore de témoignages de personnes qui sont revenues. On n'est pas sûr de la durée réelle des contrats. En quelque sorte. Et donc, il n'y a pas d'emploi à la clé garanti après la formation comme il était prévu dans l'offre.
Face à ces abus, est-ce qu'il y a des réactions officielles, Thierry Vircoulon ?
Alors, jusqu'à l'automne 2025, les gouvernements africains ont oscillé entre indifférence et silence. Et en fait, le scandale a été révélé par le Kenya. Justement par des Kenyans, comme je le disais, qui étaient blessés et qui ont contacté leur famille sur place. Et à partir de là, les médias kenyans, qui sont libres et qui font un travail d'investigation, ont pu faire sortir ces affaires. Et ça a obligé les autorités kenyanes, d'une part, à reconnaître en effet qu'elles avaient des concitoyens qui étaient sur le front en Ukraine. Et d'autre part, ils ont décidé d'enquêter sur ces réseaux de recrutement et de demander à la Russie de renvoyer les Kenyans qui étaient enrôlés dans son armée. Et donc ça s'est passé, ça a commencé à l'automne 2025. Depuis, le Kenya a d'une part arrêté une vingtaine de citoyens, de Kenyans qui étaient en partance pour la Russie. Elle a arrêté aussi les passeurs qui étaient avec eux. Et elle a obtenu le retour d'une petite vingtaine de Kenyans qui étaient en Russie. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que la Russie a, pour la première fois, accepté de renvoyer des Africains à la demande d'un de leurs gouvernements. Et après le Kenya, il y a maintenant deux gouvernements africains qui ont fait la même demande. C'est l'Afrique du Sud et le Botswana. Mmh. Et donc on s'attend à ce qu'il y ait d'autres gouvernements africains aussi qui soient contraints de faire la même demande à Moscou.
Bah oui. Et d'ailleurs, qu'en est-il de la relation de l'Ukraine avec le continent africain dans ce contexte de guerre avec la Russie ?
La diplomatie ukrainienne s'est évidemment saisie de cette affaire, de cette politique de recrutement russe et les différentes ambassades ukrainiennes en Afrique alertent sur cette politique, contre cette politique et essaient de sensibiliser évidemment dans leurs pays respectifs l'opinion publique. Et on voit qu'en Afrique du Sud, au Kenya aussi et au Botswana, les gouvernements suivent aussi et essaient également de sensibiliser l'opinion publique à ce problème pour éviter qu'il y ait ce type de recrutement.
Et, ouais, et de leur côté, les autorités russes, mais aussi les intermédiaires africains, les recruteurs, nient en bloc toutes ces accusations.
Oui, ça va sans dire. Moscou nie qu'elle a cette politique d'exploitation des migrants, évidemment. Mais en même temps, comme je le disais, la réalité est évidente, puisqu'ils viennent de renvoyer des Kenyans, qu'ils ont probablement aussi renvoyé d'autres gens vers des pays asiatiques, parce que l'Inde, le Bangladesh et le Népal ont aussi demandé, pris contact avec Moscou pour leur demander d'arrêter de recruter dans leur pays et de renvoyer les gens. Je crois même que certains de ces pays ont demandé aussi qu'ils rapatrient les corps des morts. Donc vous voyez, ça prend quand même une ampleur assez importante. Et la Russie, je pense, vis-à-vis sur le plan des relations diplomatiques, c'est un bon test, parce qu'elle ne peut pas, je pense, se permettre de dire non à certains de ses gouvernements.
Oui.
Et donc elle est forcée de renvoyer des gens. Et on le voit avec le Kenya, et je crois qu'on va en voir d'autres exemples à venir dans les mois qui viennent.
Ouais. Thierry Vircoulon, cette politique de recrutement démontre aussi le besoin important de main-d'œuvre, finalement, de la Russie pour son effort de guerre.
Oui, tout à fait. C'est évidemment un besoin très pressant. En fait, les autorités russes, au début de la guerre, ont beaucoup recruté parmi les communautés étrangères qui étaient en Russie, notamment les étudiants, parmi les étudiants et puis aussi les travailleurs. Et ce stock s'est évidemment épuisé au bout de 4 ans de guerre. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis à activer ces réseaux de recrutement à l'international. Il y a aussi une question de coût. C'est-à-dire, aussi bien en ce qui concerne les ouvrières que les mercenaires amateurs, ce sont des gens qui coûtent moins cher que les Russes.
Oui.
C'est une stratégie qui consiste à capter une main-d'œuvre beaucoup moins chère que la main-d'œuvre intérieure.
Oui, forcément, je vois les salaires tournent autour entre 500 et 1300 dollars, alors que c'est au moins 3000 pour un Russe, en fait, au minimum.
Oui, oui, et puis en ce qui concerne les militaires russes, le régime a beaucoup augmenté les salaires pour recruter, justement.
Motiver, ouais. Les familles.
Plus, il a aussi beaucoup augmenté les indemnités en cas de décès qui sont versées aux familles russes, parce que le régime russe ne veut pas passer à la conscription nationale, prendre des conscrits pour aller sur le front. Donc,